Le projet de loi de bioéthique devrait arriver au Sénat dans le courant du mois de janvier. D'ici là, nous examinons le texte, rien que le texte, que les députés ont voté à une large majorité le 15 octobre dernier. Et pour ce faire, comme chaque jeudi, je suis accompagnée de Maïlys Jahan, déléguée d'Alliance Vita pour la Haute-Garonne. Bonjour Maïlys.
Bonjour Isabelle.
Je salue encore une fois votre courage d'être là de bon matin. Il pleut, vous êtes une maman de trois jeunes enfants. Bravo, merci d'être avec nous. Maïlys, nous sommes toujours dans le premier volet de ce projet de loi, premier volet intitulé « Élargir l'accès aux technologies disponibles sans s'affranchir de nos principes éthiques ». Et nous examinons ce matin l'article 3. Il concerne la levée de l'anonymat du donneur dans le cadre d'une PMA avec tiers donneur. La règle que nous nous sommes fixée, c'est que je lise l'article. Je vais le faire tout de suite. Il n'est pas très long. J'en lis évidemment qu'un morceau, celui qui nous intéresse et sur lequel on va se pencher. Alors, que dit-il cet article ? Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur. Alors peut-être, Maïlys Jahan, on va reposer le cadre. PMA avec tiers donneur, vous allez peut-être nous redire de quoi il retourne.
Il s'agit d'une procréation médicalement assistée lorsque le couple ne peut pas concevoir naturellement.
C'est ça.
Et que l'un des deux a des gamètes, soit une pénurie de gamètes.
Gamètes de quelqu'un d'autre, hein, autre extérieur au couple. Donc ça concernait jusqu'à présent les couples hétérosexuels. Et aujourd'hui, voilà, avec l'extension de la PMA à toutes, aux couples de femmes et aux femmes seules, les femmes seules aussi pourront donc recourir à des gamètes d'un homme extérieur.
C'est ça, et elles n'auront pas le choix. 100% des PMA pour les nouvelles situations de femmes seules, de couples de femmes, seront avec tiers donneur.
Avec tiers donneur. Alors qu'est-ce qu'il nous dit cet article de la loi Maïlys Jahan?
Il s'agit dans cet article de répondre à une demande très forte des enfants issus de dons, enfin en tout cas d'un très grand nombre de personnes issues de dons, de pouvoir accéder à leur origine génétique en leur donnant à la majorité la possibilité de savoir qui est leur donneur, leur géniteur, pour les aider à comprendre d'où ils viennent, à qui ils ressemblent, est-ce qu'ils ont des demi-frères, des demi-sœurs, qui
alors,
ils sont.
Ils ont le choix, j'ai l'impression, entre données non identifiantes et identité. Ils peuvent choisir de ne pas tout savoir, mais de savoir au moins quelques critères, c'est ça ?
C'est ça, ils peuvent demander soit l'un, soit l'autre, soit les deux.
Et avec, j'imagine, l'accord au départ du donneur ?
Voilà, en fait, à partir du moment où cette loi va être votée, tout donneur devra accepter que son identité soit révélée à la majorité de l'enfant.
Avec donc l'idée que à 18 ans juste fêté, un enfant puisse avoir accès à ses origines et donc à l'identité de son père et l'appeler « bonjour, je suis ton fils ». C'est ça qui peut se passer ?
Effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver.
Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que disait le droit français, Maïlys Jahan ?
Aujourd'hui, en France, tout don d'éléments du corps, donc c'est le don du sang, le don d'organes et le don de gamètes, repose sur trois principes fondateurs de la bioéthique qui sont l'anonymat, la gratuité et le libre consentement. Mmh. Aujourd'hui, l'anonymat seul est remis en question dans cette loi.
Oui, on n'en a pas parlé. Le don reste gratuit, hein.
Le don reste gratuit, c'est ça.
Donc là, on lève ce principe. Alors, en levant ce principe, Maïlys Jahan, on donne finalement, et vous l'avez rappelé, accès aux origines, on permet à l'enfant d'accéder à ses origines. Pourquoi est-ce que ça fait débat, ça ? Surtout chez vous, Alliance Vita, où il me semble que justement, reconnaître l'enfant de quelqu'un, ça fait partie de vos revendications, cette histoire de filiation, non ?
Oui, exactement. C'est une très belle avancée qui va cette fois-ci dans le sens...
C'est une avancée.
C'est une avancée qui va dans le sens de l'enfant, de ses droits, de ses besoins. On reconnaît que l'amputation de la moitié de sa généalogie pose problème, que c'est pas anodin et qu'il y a un vrai besoin de savoir d'où on vient. Par contre, c'est illusoire de penser que c'est une solution miracle, puisque cette proposition atteste en fait des difficultés de la PMA avec tiers donneur, déjà à la base, et la maltraitance originelle qui est imposée aux enfants ainsi conçus.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
L'enfant a le droit, c'est la convention d'Oviedo qui le dit et qu'on a ratifié, l'enfant a le droit de connaître son père et sa mère et dans la mesure du possible d'être élevé par eux. Et là, on voit qu'avec le tiers donneur, on escamote un petit peu le père génétique Et ça pose essentiellement problème dans les nouvelles situations qui vont être créées avec la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes. Puisque aujourd'hui, les enfants qui sont en recherche justement de leur géniteur nous disent « Je ne recherche pas un père, puisque j'ai déjà un père, c'est celui qui m'a élevée, celui qui m'a aimée, je cherche d'où je viens, qui je suis, pourquoi est-ce que je suis là ?»
Et bien la loi va leur permettre du coup.
La loi va leur permettre, mais dans les couples, dans les nouvelles situations, les couples de femmes et les femmes seules, ils ne pourront pas dire j'ai déjà un père,
ah oui.
Je cherche juste un géniteur, puisqu'ils n'auront pas de père.
D'accord, donc vous revenez toujours finalement à ce problème de la PMA pour toutes, qui est pour vous l'essentiel problème, mais vous reconnaissez tout de même, c'est ce que je comprends de ce que vous dites, une avancée qui cache quand même un paradoxe en fait, c'est ça hein.
Voilà, c'est exactement ça.
Une avancée qui cache un paradoxe. On a parlé, Maëlys Jahan, à propos de cette levée de l'anonymat, d'un risque possible que cela crée une pénurie de gamètes. On pourrait le comprendre, puisqu'en fait, ça reviendrait, ça pourrait faire hésiter les potentiels donneurs. C'est de ça qu'il s'agit ?
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a déjà observé en Angleterre. Au moment où ils ont levé l'anonymat, justement, il y a une pénurie de gamètes. C'est ce qui va probablement avoir lieu en France. Enfin, c'est ce qu'on peut, en tout cas, supposer. Sachant qu'on est déjà dans une pénurie de gamètes, on ne peut déjà pas faire face à toutes les demandes. Avec l'accès de la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes, on sera encore plus dans une pénurie de gamètes puisqu'on aura encore plus de demandes. Et ce qu'on peut remarquer quand on regarde les pays qui ont conservé la gratuité du don, qui est un principe fondateur, il est hors de question de le remettre en cause en France. Cependant, eux aussi faisant face à une pénurie des gamètes, eh bien, ils sont obligés d'importer 90% de leurs gamètes dans des pays qui, eux, rémunèrent leurs donneurs.
Donc c'est un risque de marchandisation de gamètes que vous craignez ?
Exactement. On rentre complètement dans une logique de marchandisation.
Merci beaucoup Maëlys Jahan pour ces éclairages. Nous étions ensemble ce matin pour parler de l'article 3 du projet de loi de bioéthique voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Article 3 qui concerne donc la levée de l'anonymat du donneur. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur l'article 14. On va faire un petit saut dans le texte qui s'attarde, lui, à la recherche sur l'embryon. Merci à vous Maëlys.
Merci Isabelle.